haine comme nationalisation. Derrière ce terme, en fait, se cache la question de la propriété privée et la question de la voie vers le socialisme entre, entre guillemets, les réformistes, Bernstein, Jaurès, et les révolutionnaires, Luxembourg, Lénine. Les nationalisations seraient pour les premiers l'amorce d'un processus de réappropriation sociale dans une perspective de transition vers le socialisme. Pour les seconds, les nationalisations se voudraient plus directement une appropriation sociale, une négation de la propriété privée. Comment la théorie marxiste aborde-t-elle la question du mode d'appropriation des moyens de production ?
Avec le concept de nationalisation, nous avons affaire à un concept qui est relativement récent. Ça veut dire ça que l'idée de nationalisation dépend, d'une mesure qu'il faudra apprécier, du surgissement en Europe des États-nations. Les États-nations qui se constituent en Europe et qui viennent jusqu'à nos jours, nous sommes encore dans des États-nations, vont se préoccuper naturellement de leur propre identité. Cette identité sera géographique, elle sera linguistique, elle sera aussi une identité de possession, de patrimoine, comme on dit aujourd'hui. Et les nationalisations sont prônées comme un processus, sinon révolutionnaire, du moins progressiste, en ce sens qu'elles vont consister à faire passer la propriété privée de subjective, d'individuel, qu'elle était, à une propriété collective, à une propriété de groupe. La propriété, naturellement, la plus collective, ce n'est pas celle d'un groupe déterminé, c'est la propriété de l'État, dans la mesure où l'État, c'est précisément l'État-nation. L'État doit s'approprier, doit gouverner tout au moins les richesses de la nation. Alors, tant qu'on a affaire à une appropriation de type privé, on a affaire à une appropriation typiquement capitaliste. On a d'une part la propriété privée des moyens de production, qui est aussi la propriété privée de la terre, et par conséquent une classe qui détient cette propriété et qui par ce fait occupe le pouvoir. Les nationalisations qui sont suggérées par les partis progressistes, ce sont précisément des contestations de la mainmise de la classe possédante sur les biens de la nation, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse de l'industrie ou qu'il s'agisse de la terre. Et alors là, la conception de la nationalisation qui va se développer dans le mouvement ouvrier, c'est que les travailleurs se réapproprient ce qui leur appartient, puisque c'est eux qui créent les richesses. Les propriétaires privés des richesses les font exploiter par les travailleurs, qui eux sont la source du profit, de la plus-value, etc. Donc réappropriation. Cette réappropriation, elle a tout de suite été envisagée dans le marxisme comme une préoccupation stratégique. Et la nationalisation, si l'on prend l'exemple de la France, la nationalisation est une notion qui n'a pas été mise en œuvre par le mouvement ouvrier et ses représentants. Il a été mise en œuvre au lendemain de la guerre par le pouvoir qui était issu de la guerre et qui était un pouvoir, comme vous le savez, composite, le pouvoir gaulliste à l'intérieur duquel se trouvaient des communistes. Et alors à ce moment-là, ça a été la grande époque des nationalisations, une espèce d'enthousiasme réel des classes laborieuses en constatant que la nationalisation permettait la constitution d'un service public. Ce service public, ça voulait dire que les richesses de la nation étaient mises au service de toute la nation, de tout le peuple, et singulièrement des travailleurs, sans souci de profit, sans souci de plus-value. Un service public, c'est quoi ? C'est un service qui investit différentes sortes de moyens, mais qui est destiné à la satisfaction des besoins de l'ensemble de la nation. Ça veut donc dire que, à l'intérieur du capitalisme, la nationalisation représente le pas en avant qui doit permettre d'en sortir, au même titre que le Capital parlait des coopératives ouvrières. Les coopératives ouvrières ne sont ni la révolution, ni le socialisme, mais elles sont une sorte d'entraînement des travailleurs à la conduite du pouvoir. Les nationalisations, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a eu un resserrement politique, disons une période de réaction ou de régression, ce sont les nationalisations qui ont été mises en question, et derrière les nationalisations, l'idée même de service public. Ça, c'est extrêmement important, parce que la lutte de classe se fonde sur ce genre d'étape. Si on régresse par rapport à l'étape de la nationalisation, on régresse nécessairement par rapport à l'étape, disons, d'un changement de la société, qui serait un changement radical. Alors les nationalisations correspondent, il faut bien le voir, à un phénomène économique également. C'est le fait que les rapports économiques socialisent de plus en plus la production, et que donc la socialisation des rapports de production semble désigner la nécessité de leur appropriation par ceux qui les constituent, qui les font fructifier. Ça, c'est une attitude qui permet aux yeux des travailleurs d'isoler ce qu'on appelle les féodalités. Les féodalités, non pas naturellement au sens de la féodalité du mode de production antérieur, mais les féodalités industrielles, aujourd'hui les multinationales, mais c'est ce qu'on appelait aussi au début du siècle les 200 familles. On avait l'idée que l'essentiel des biens de la nation était entre les mains de 200 familles. Alors aujourd'hui les choses ont changé, mais enfin lorsqu'on regarde les revues des États-Unis, qui font régulièrement, une fois par an au moins, le classement des grandes fortunes mondiales, on s'aperçoit dans les dernières années que cette liste s'est d'une part réduite et que d'autre part, les biens, notamment les biens financiers des premières fortunes mondiales, ont considérablement augmenté, en creusant ainsi les inégalités avec les revenus des travailleurs. Et la lutte contre les féodalités, c'est la lutte pour la nationalisation. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que dans ce qu'on appelle, à juste titre, la destruction des services publics, l'enjeu, c'est effectivement le retour au privé de biens qui avaient été, en quelque sorte, remis aux travailleurs et qui, tout au moins, étaient au service du public, au service du peuple. Là, on peut utiliser l'expression de service du peuple. Parce que ce retour signifie des formes renforcées de l'exploitation. Lorsque le privé récupère ce qui était devenu collectif, il est évident que les inégalités ne se réduisent pas. Cette lutte, par conséquent, renforce l'idée que les nationalisations sont une étape indispensable dans la lutte de classe. Et que par conséquent, il faut aujourd'hui que les syndicats notamment se mobilisent pour défendre les services publics. Alors, par rapport à cette idée de nationalisation, qu'est-ce qu'on trouve derrière ça? On trouve l'idée d'un contrôle des travailleurs sur la production. Mais comment se fait cette appropriation? Ce n'est pas une appropriation par les travailleurs. Elle se fait par le biais de l'État, c'est ce qui fait qu'on a une sorte d'équation entre nationalisation et étatisation. Et alors cette équation, justement, c'est celle dont l'existence des pays socialistes a assuré en quelque sorte la domination dans la conscience des travailleurs et dans la conscience des mouvements progressistes. Parce qu'on a bien vu qu'en Union soviétique notamment, les biens qui étaient les biens du tsar, les biens des féodaux, en particulier l'exploitation minière, ont été appropriés par l'État. C'est l'État aussi qui s'est approprié la terre et qui, par conséquent, du point de vue industriel comme du point de vue agraire, a redistribué les formes de cette appropriation. C'est-à-dire, par exemple, s'agissant de la terre, on a déterminé des formes d'exploitation de la terre, qui sont des formes d'exploitation collective et non pas privée. Les paysans avaient l'usufruit de la terre et n'en avaient pas la propriété. Et ça a donné les différentes formules que nous connaissons, les kolkhozes, les sovkhozes, etc. De même, dans les entreprises industrielles, la main de l'État se traduisait par l'existence de plans. Les industries étaient astreintes à des taux de production déterminés. Mais tout ça, ce n'est pas les travailleurs qui faisaient ça. Telle enseigne que, dans cette étatisation, le rôle des travailleurs en tant que tel était pratiquement absent. Les syndicats étaient inexistants, ou alors c'était des syndicats complètement dépendants du pouvoir. La grève et les transgressions de ce type sur le plan social n'existaient pas. Par conséquent, la nationalisation, sous la forme de l'étatisation, apparaissait comme le dernier mot du socialisme. En fait, naturellement, ça ne l'était en rien, et c'est la raison pour laquelle il a fallu reconsidérer la formule qui était utilisée par Marx, c'est-à-dire l'appropriation par les travailleurs eux-mêmes. Or, cette conquête des travailleurs, qu'est-ce qu'elle suppose ? Elle suppose l'autogestion, comme on l'a dit, c'est-à-dire le fait que les travailleurs exercent véritablement le contrôle sur les instruments de production qui sont les leurs, par exemple, détermine la politique de telle ou telle entreprise, participe aux plans qui sont nécessairement établis par l'État. On a des traductions banales, bancales de ça. C'est l'existence, par exemple, des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise, en principe, a un regard sur la gestion d'entreprise. En fait, on voit que les pouvoirs des comités d'entreprise, quand ils n'ont pas été purement théoriques, n'ont pas cessé de diminuer, et qu'aujourd'hui, même les cadres, c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent pas à la classe ouvrière proprement dite, même les cadres n'ont pas de droit de regard sur les décisions qui se prennent dans l'entreprise. À telle enseigne que pour les grandes entreprises, on ne sait même pas, comme vous le savez, qui prend les décisions. De telle sorte qu'aujourd'hui, la lutte en faveur de la défense des services publics, c'est-à-dire en faveur du retour aux nationalisations, est une lutte qui incontestablement a un caractère progressiste, mais qui doit plus que jamais désigner l'appropriation des instruments de production et de la production par les travailleurs eux-mêmes.